Permettez-moi au nom du CCIM et de son président, monsieur Amselem, de souhaiter la bienvenue à Raphaël Nissenbaum, le Rofim Mabaïm Meshem Hashem. Et comme il est déjà tard, je passe tout de suite la parole à Raphaël Nissenbaum.
Bonsoir à tous et à toutes, d'abord. Et merci de m'accueillir si gentiment ce soir. Et merci à vous. Le premier que je dois remercier pour cette soirée. Et nous allons donc réfléchir ce soir. Nous allons donc réfléchir ce soir à cette idée des défis du mariage. Les défis du mariage. Le mariage, c'est vraiment une très grande idée. C'est d'abord une très grande idée parce que c'est le fondement du peuple juif. Ce n'est pas qu'une cérémonie que le mariage. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est fondateur, c'est quelque chose surtout qui est la poursuite d'une chaîne. Autrement dit, c'est quelque chose à quoi nous devons tous réfléchir. Mais pour réfléchir à cette notion-là, alors quand je dis tous, c'est quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation personnelle, c'est quelque chose qui est très important pour chacun d'entre nous. Quand on a affaire à ce type de questions, il faut commencer par poser quelques principes. Quand on a affaire à ce type de questions, qui a une portée, comme on vient de le dire, si générale et si essentielle, on est donc obligé d'abord de savoir sur quelle base on va se fonder. Il y a un principe général qui est vrai pour tout le judaïsme et pour toute la vie juive. C'est que tous les événements matériels que nous observons, tous les éléments matériels qui constituent le monde, et en particulier, bien sûr, les éléments matériels aussi fondamentaux que celui-là, que le mariage, sont d'abord l'expression de réalités spirituelles. Reprenons l'idée. Cela veut dire que lorsque l'on parle de mariage, mariage matériel, entre un juif et une juive, eh bien, ce mariage-là est essentiellement d'abord la figure du mariage spirituel entre Dieu et le peuple juif. On sait que dans la relation entre Dieu et le peuple juif, Dieu est représenté pas traditionnellement par le mari, alors que le peuple juif est traditionnellement représenté par la femme. On en a un exemple fameux dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, où Shlomo HaMelech, le roi Salomon, place le Shir HaShirim, qui, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois de manière erronée, n'est pas un poème qui célébrerait l'union d'un homme et d'une femme, mais un texte très profond écrit par le roi Salomon, par Shlomo HaMelech, qui illustre le lien particulier entre Dieu et le peuple juif. Nous voyons que dans ce texte, c'est un des nombreux exemples, on pourra en trouver d'autres, on aura peut-être l'occasion d'en parler, nous voyons que dans ce texte, Dieu est personnifié, si l'on peut dire, par l'homme, le mari, alors que Knesset Israël, le peuple juif, est personnifié, si l'on peut dire, par la bien-aimée du texte. Ce n'est qu'une illustration. Mais cela signifie quelque chose. Ça veut dire que tout ce que nous allons observer dans le mariage, tous les éléments de réflexion que nous allons pouvoir apporter pour décrire la fondation, le déroulement, le vécu et la réussite d'un mariage, c'est un petit peu tout cela, les défis du mariage aujourd'hui. Eh bien, tout cela, nous allons devoir le trouver dans une relation unique, celle de Dieu et du peuple juif. Alors, c'est si vrai d'ailleurs que on nous l'enseigne à de nombreux degrés. On nous dit que si même la possibilité de la notion de mariage existe, c'est d'abord parce qu'il y a cette union primordiale entre Dieu et le peuple juif. De la même manière que dans cette union entre Dieu et le peuple juif, nous observons que Dieu donne la lumière, la sagesse, la vitalité, etc., etc., et que le peuple juif reçoit cette sagesse, cette lumière, cette vitalité, qu'il va utiliser pour en produire quelque chose, produire une nouvelle sagesse, produire un, une manière de vivre dans le monde, on va dire très rapidement spiritualiser le monde, et bien de la même façon, dans le couple, l'homme aura pour fonction de donner, alors que la femme aura pour fonction de recevoir, pas seulement au sens matériel, mais aussi au sens spirituel. Ne croyons pas qu'il y a ici une relation hiérarchique quelconque. On n'est pas en train de dire que l'un est actif et l'autre est passif. On est en train de dire que l'un a une fonction et que l'autre en a une autre, et que la fonction du second est absolument nécessaire pour faire ressortir quelque chose de concret, pour produire à partir de ce qu'a apporté le premier. Mais nous allons y revenir. Et cela se passe à tous les niveaux. C'est tellement vrai que si l'on compare, si l'on réfléchit à une relation plus profonde entre Dieu et le peuple juif, on remarque que ça réplique dans la relation entre l'homme et la femme. La relation entre Dieu et le peuple juif, qu'est-ce que c'est ? Fondamentalement, chaque juif détient une neshama, une âme. L'âme que détient chaque juif est, nous enseignent nos commentateurs, chelek eloka mimal mamash, une partie de Dieu, partie de l'essence de Dieu. Alors vous vous demanderez certainement comment on fait pour avoir chacun une partie de l'essence de Dieu en soi, puisque c'est un petit peu ce qu'on est en train de dire. Je ne répondrai pas tout de suite à la question, mais retenons simplement le point central de l'idée. C'est que finalement, Dieu prend une partie de lui-même, de quelque chose qui, par définition, d'un élément qui n'est pas décomposable, et qu'il le met en nous, créant ainsi une unité profonde et un lien éternel entre lui et chacun d'entre nous. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage ? Un mariage, c'est l'union entre deux êtres, mais au un sens très fort. Vous avez remarqué qu'il a la coutume de faire une joie, une célébration très joyeuse pour un mariage, dans toutes les communautés juives. Et on s'interroge toujours, pourquoi cette célébration joyeuse pour un mariage ? A priori, ben c'est vrai, ben c'est une bonne nouvelle, un petit peu comme ça qu'on le vit. Mais on peut s'interroger de manière plus profonde, nous remarquons que ce n'est pas simplement cela. Les plus grands sages ont accompli ce qui nous est présenté comme une mitzvah, comme l'accomplissement d'un commandement divin, celui de réjouir le chatan et la kala, les mariés. Pourquoi cette joie ? Bien parce que ce que nous célébrons, ce n'est pas simplement ce qui serait déjà pas mal, ce que nous célébrons, ce n'est pas simplement l'union entre l'union entre deux personnes, un mariage, comme on l'a dit, ce que nous célébrons va bien au-delà. C'est l'union entre deux âmes, deux moitiés d'âmes qui étaient séparées. Ainsi, dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai nous le dit de manière très claire. Rabbi Shimon dit donc dans le Zohar, il y avait ici deux entités, deux moitiés d'entités séparées. Ils s'unissent et deviennent un. Un petit peu comme il y a cette union fondamentale et essentielle entre Dieu et le peuple juif. Alors maintenant que nous avons posé ce principe clair, autrement dit, maintenant que nous avons déterminé que toute la vie du couple doit être organisée autour de cette conception, c'est-à-dire que le mariage n'est pas le fait, l'effet conséquence. Le mariage n'est pas le fait du hasard. La rencontre n'est pas le fait du hasard. Dieu arrange les choses pour que la rencontre se produise parce que deux moitiés d'âme doivent impérativement se réunir. Puisqu'il en est ainsi, cela veut dire qu'il y a donc une véritable construction en œuvre qui doit se fonder sur cet acquis spirituel. Comment cette construction peut-elle arriver ? Comment peut-elle apparaître ? Alors, il faut commencer par dire d'abord que même si je vais probablement dire quelque chose qui n'est pas à la mode. Le mariage est une construction progressive. La relation entre un homme et une femme, comme celle entre Dieu et le peuple juif, c'est une relation constituée de deux facteurs. C'est une relation, comme on l'a dit à l'instant, par nature, il ne peut pas y en avoir d'autres. Deux moitiés d'âme s'unissent, et ça ne pouvait être que ces deux moitiés d'âme. Mais inversement, une fois que ces deux moitiés d'âme se sont réunies, la construction de leur union est une œuvre de longue haleine. La construction de leur union est une œuvre qui va probablement leur prendre toute la vie. D'ailleurs, c'est à ça que servira leur vie. Alors pour cela, elle a dû commencer sur des bases saines. On l'a dit, la toute première base, c'est cette rencontre qui s'est produite. Cette rencontre qui s'est produite, qui a donc abouti sur la cérémonie elle-même, qui a réuni deux personnes qui étaient différentes et qui ne deviennent plus qu'une spirituellement, et même matériellement, et dont l'union va se manifester finalement dans la conception d'une nouvelle personne qui va faire entrer une idée d'infini dans le monde. On peut s'interroger. Puisque tout ce que nous, êtres humains, nous juifs, nous sommes le reflet de Dieu. Si nous sommes le reflet de Dieu, nous savons que Dieu est infini. Nous devons donc avoir un aspect d'infini en nous. Nous devons être les porteurs d'un aspect d'infini. Qu'est-ce qui, chez un être humain, chez une créature limitée, peut être infini ou peut être considéré comme tel? Précisément, le mariage crée une continuité. Il crée la possibilité d'une génération nouvelle. Cette apparition d'une continuité au-delà des personnes concernées, c'est l'aspect infini que fait apparaître la réunion entre l'homme et la femme. Autrement dit, l'enjeu est important. Mais pour parvenir à tout cela, il faut être passé par la phase d'unité. L'enjeu du mariage, c'est donc d'abord d'établir cette unité totale, cette union totale entre les deux êtres. Plus qu'un seul être. Comme on l'a dit, on a cité le Zohar, qui le dit clairement, ils s'unissent, et les mots sont très forts là aussi, ils s'unissent et deviennent un. Un de manière absolue. Comment devient-on un quand on est deux? Et en plus, deux fondamentalement très différents. Parce que, ne nous laissons pas prendre aux illusions contemporaines, on sait très bien, on observe autour de nous, que nous nous connaissons, que l'homme et la femme sont deux êtres dotés de qualités essentiellement différentes. Encore une fois, pas d'ambiguïté. Il ne s'agit pas ici d'introduire des notions de supériorité ou d'infériorité, mais il s'agit simplement de pointer du doigt une réalité concrète. Les hommes et les femmes sont des êtres différents, dotés de qualités différentes. Alors on le voit apparaître dans le texte de la Torah, bien sûr. On nous dit pour l'homme, Darko Lirvosh, la manière d'agir de l'homme, c'est d'être un conquérant. Pas à prendre au sens strict, mais pourquoi un conquérant? Parce que l'homme, c'est celui qui sort dans le monde, c'est celui qui va à la recherche de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la femme? La femme, nous dit-on, alors on en trouve des tas d'expressions, mais ça tourne toujours à la même idée, autour de la même idée. Kol kvuda batmeler pnima. La gloire de la fille du roi est intérieure. Ou alors on nous dit Chochmat nashim banta beita. C'est le Talmud cette fois-ci. La sagesse de la femme a construit la maison. Sous tous ces aspects, nous remarquons que la situation de la femme n'est pas de sortir, comme on l'a dit pour le mari, mais au contraire d'être à l'intérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors on en a une remarquable illustration dans le Talmud qui nous dit que fait le mari? Eh bien il ramène le grain à la maison. le grain à moudre. Mais que si la femme ne va pas intervenir, il n'y aura rien à manger, parce que c'est elle qui aura la charge de moudre et de faire le pain qui permettra de nourrir toute la famille. Ce n'est pas un partage de tâches domestiques, c'est un vrai partage spirituel. L'homme est sorti, il a accompli son œuvre à l'extérieur. Cette œuvre reste lettre morte si la femme ne reprend pas le résultat de son effort pour construire quelque chose dans le monde matériel à partir de là. Autrement dit, il y a une unité essentielle. Et ce qui nous explique comment on peut faire un être unique à partir de deux êtres différents, voire complètement opposés dans leur nature. On a dit quelqu'un du dehors, finalement, si je résume, quelqu'un du dehors et quelqu'un du dedans. Quelqu'un qui s'extériorise, qui va à la recherche, qui accomplit un travail spirituel à l'extérieur, et quelqu'un, quelqu'une, qui, au contraire, le récupère à l'intérieur et en fait quelque chose qui va servir. Alors, on va le dire en d'autres termes, un découvreur, une mainteneuse. Comment fait-on pour réconcilier deux approches aussi différentes que celles-là? Et en plus, en disant qu'elles doivent s'unir. Enfin, la logique voudrait qu'on dise exactement le contraire. La logique voudrait qu'on dise ils sont tellement peu ressemblants, ils ont finalement tellement peu de choses en commun, tellement peu de centres d'intérêt communs, qu'à la limite, on devrait dire mais il ne faut surtout pas qu'ils s'unissent, ils ne pourront pas. Il y a plusieurs degrés du shalom. Il y a un premier degré du shalom qui est celui de l'identité. Nous sommes tous pareils et donc nous nous unissons. Il y a l'opposé du shalom. Nous ne sommes pas du tout d'accord et donc puisque nous ne sommes pas du tout d'accord, nous allons nous heurter. Puisque vraiment nous ne trouvons pas en l'autre ce que nous trouvons en nous-mêmes. Deux situations complètement différentes. Dans la première, on ne peut s'unir qu'avec ce qui est identique à nous-mêmes. C'est très restreint comme idée de shalom, bien sûr. Parce que si jamais on ne peut s'unir qu'avec ce qui est strictement identique à nous, c'est finalement qu'on restera bien longtemps tout seul. Dans le cadre du mariage, mais pas seulement, dans le cadre de l'amitié, dans le cadre de la vie spirituelle. Si on ne peut parler qu'avec celui qui est comme nous, alors dans ce cas-là, on ne parle à personne, on ne parle qu'à soi, et on s'appauvrit. Il y a la situation opposée. C'est la même en réalité, mais en l'inversant. Puisque nous vivons ensemble, homme-femme, pas seulement, dans la vie spirituelle, dans l'amitié, comme dans les relations sociales, et que nous sommes très différents, nous ne pouvons pas nous parler. Et si nous avons le moindre contact, nous ne pouvons que lui donner une forme conflictuelle. Comment dépasser cela? Comment être différent et ne pas connaître le conflit? Parce qu'on assume sa différence et qu'on sait qu'elle a un sens. Il y a, comme on l'a dit, plusieurs degrés d'unité. Le tout premier degré d'unité, on a vu ses limites. Mais il y a un troisième degré qui est plus haut que tous les autres. C'est quand il réunit les contraires. Quand on est en discussion, quand on est en conflit, et qu'on décide d'établir la paix est plus grande et plus solide que s'il n'y avait pas eu de conflit. Vous savez, si on regarde les références spirituelles, cette fois-ci, puisqu'on a dit qu'on allait observer comme plan tout ce qui existe au niveau des dieux. Bien, nous avons une première sphira, un niveau spirituel, un attribut de Dieu, que l'on appelle chesed, la bonté. Le second, que nous enseignent nos commentateurs, c'est gvura, la rigueur, la sévérité. Quant au troisième, on l'appelle de manière étonnante tiferet, ce qui veut dire la splendeur. Alors la bonté et la rigueur, on comprend bien. Mais pourquoi la splendeur est-elle un attribut de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que nous dit-on, il est le troisième. Le chesed, la bonté, nous savons ce que c'est. C'est quelque chose de bien identifié. C'est une étiquette connue. La gvura, la rigueur, nous savons aussi ce que c'est. Là aussi, c'est quelque chose de complètement identifié. Il est bien clair que, le chesed, la bonté, exclut la gvura, la sévérité. Et inversement, on est ou bon, ou c'est, disons, généreux et ouvert, ou rigoureux et plus refermé, alors bien entendu, sans aucune notion péjorative. Les deux sont positifs. Mais c'est deux manières, deux voies différentes. Arrive la troisième. Tiferet, c'est la splendeur parce qu'elle réunit les deux précédentes. Comme nos sages nous le disent, le plus beau tissu n'est pas celui dont la couleur est uniforme, même si c'est une très belle couleur. On obtient un tissu le plus beau possible que lorsqu'on mélange les couleurs. Alors à ce moment-là, ça crée une unité nouvelle et supérieure. L'attribut de Tiferet, la splendeur, c'est la réunion des deux contraires précédents. La réunion de Chesed, de la bonté, et de Gvura, la sévérité. On a exactement la même problématique. C'est-à-dire que nous avons ici deux êtres essentiellement différents, l'homme et la femme. Deux êtres différents, deux êtres qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas la même fonction. L'un sort, l'autre rentre. L'un va chercher à l'extérieur, l'autre construit à l'intérieur. Deux fonctions différentes. Et concrètement, dans leur structure mentale même, ces deux fonctions vont apparaître et vont les doter de qualités différentes. L'homme qui va chercher à l'extérieur va être davantage doué pour l'action et puis pour cette forme de réflexion qui conduit à l'action. La femme, davantage à l'intérieur, va ressentir avec une plus grande force tout ce qui lui est nécessaire dans sa vie de tous les jours. Deux idées différentes. Est-ce que la froide intelligence peut s'allier à la chaleur de l'émotion? Même en nous avons le conflit. Comment est-ce qu'on ne l'aurait pas entre deux personnes? Sauf, comme on l'a dit, si on désigne notre niveau d'unité. L'unité qui n'est pas faite de la différence, qui n'est pas faite des conflits ou de l'identité, mais l'unité qui est faite, au contraire, de la différence entre les deux partenaires. Et comme il y a différence, et qu'on sait que cette différence est productive, puisque, comme on le disait, s'il n'y avait pas l'homme pour aller chercher le grain, qu'est-ce que construirait la femme? Qu'est-ce qu'elle produirait? Alors, à ce moment-là, nous comprenons que cette unité se réalise, et elle se réalise dans un degré qui exclut toute division ensuite, parce qu'il y a eu complémentarité entre les deux. Tout cela, nous le voyons à de très nombreux stades des cérémonies même du mariage. On va prendre juste un exemple, puisque je voudrais aussi que vous interveniez, donc on va limiter, on ne va pas tout traiter volontairement, de telle façon que vous puissiez vous aussi intervenir et qu'on oriente le débat dans tel ou tel sens. Prenons un exemple. Nous remarquons que la cérémonie du mariage, la cérémonie nuptiale, se passe dans la tradition juive de manière particulière. Il faut une roupa, il faut un dais qui entoure les mariés, qui surplombe plutôt les mariés. Quelle est la raison de cette coutume? C'est quelque chose qui est pratiqué dans toutes les communautés juives. Et nous remarquons donc qu'on le fait sans aucune vraiment sans aucune distinction, je veux dire, quel que soit, même si les airs changent ou les rites changent légèrement, mais il y a malgré tout quelque chose d'unique entre les deux. Eh bien, nous dit-on, pourquoi une choupa? Parce que, qu'est-ce que c'est que la choupa? Comment est-ce qu'on la définit? La choupa, le dé, est quelque chose qui entoure les mariés. Cela entoure les mariés, cela veut dire, on désigne dans l'interprétation profonde de la Torah, dans l'interprétation mystique de la Torah, une sorte, on va dire, de lumière divine qui pénètre jusqu'au fond des choses et marque les différences, marque les différents degrés. Mais par ailleurs, on désigne un autre niveau de lumière divine qui ne pénètre pas, qui ne marque pas les différences et différents degrés, mais au contraire, qui va réunir l'ensemble, qui réunit parce que cette lumière est supérieure à toutes les différences et elle apparaît de façon égale à tous les niveaux. La choupa, c'est précisément ce qu'elle représente. Pourquoi est-ce qu'elle représente ça? Parce que justement, elle entoure. Elle entoure, et même de loin. C'est-à-dire qu'elle réunit tous ceux qui s'y trouvent dans une lumière unique et en fait une entité nouvelle. Vous avez remarqué que tout cela suppose que le but a été bien assigné au départ. Quel est le but du mariage? Je vois qu'on traite de grandes idées en très peu de temps, mais comme je vous l'ai dit, on va y revenir dans le débat. Quel est le but du mariage? Le but du mariage juif. Le mariage juif, comme on l'a dit, ne s'arrête pas à lui-même. Le mariage juif a pour but de construire un foyer juif, une maison juive. Une maison juive que nos sages qualifient comme un sanctuaire. Un sanctuaire où Dieu va pouvoir résider. C'est-à-dire que le but de toute cette entreprise-là, c'est la construction du sanctuaire de Dieu. Une maison juive n'est pas un simple abri contre le froid ou la pluie. C'est l'endroit où Dieu doit se révéler. Donc c'est là le but. Là on fixe le but. Il va se révéler dans le foyer, il va se révéler dans les enfants, comme on l'a dit, les enfants vont être cet aspect d'infini qui va apparaître dans le monde, ce pouvoir d'infini que Dieu nous a donné. Nous aurons des enfants qui auront à leur tour des enfants, etc., etc. Autrement dit, la chaîne ne se conclut pas. Il y a ici un vrai aspect d'infini qui apparaît. Alors, comment fait-on? Comment, d'une maison matérielle, on peut faire un sanctuaire spirituel? C'est le rôle spécifique de la femme. La femme, on l'a dit, elle est présente dans le monde matériel. Le mari sort, il va à la recherche. La femme est dans la maison et elle s'occupe de choses matérielles. C'est la raison pour laquelle, même du point de vue de la halakha d'ailleurs, elle est dispensée de faire une grande partie des mitzvot assez, des commandements positifs qu'elle fera, etc., qui se trouvent dans la Torah, précisément parce qu'elle est occupée à ce rôle. Commandement matériel, on la dispenserait des commandements matériels. Mais pourquoi? Parce que cette responsabilité est énorme. Elle doit faire fructifier le produit du travail de son mari. Elle doit le faire fructifier et par cela même, elle s'accomplit. Quand on est conscient de ce rôle partagé, alors il y a quelque chose qui se passe. Le chemin devient clair. Le chemin devient clair, on sait qu'on est, d'une certaine manière, on est conduit, j'allais presque dire condamné, à se compléter. Maintenant, une fois qu'on est destiné de cette manière-là à se compléter, et donc à devenir véritablement uni, quel va être l'avenir? L'avenir d'un couple, c'est donc de créer ce processus. De faire que de ce processus va apparaître l'essence de Dieu qui va résider dans ce foyer. Et la femme va le guider. La femme va le guider. Vous savez que l'homme a la mitzvah particulière de se marier, de manière bien plus forte que la femme. Précisément parce que sans la femme, il ne peut pas exprimer le potentiel que Dieu lui a confié. Il est celui qui donne, comme on l'a dit dans le rapport entre Dieu et le peuple juif, mais pour être celui qui donne, il faut avoir à qui donner. C'est l'exemple qu'on donne toujours. L'homme qui dirait, par exemple, « je suis bon », enfin l'être humain, sans être humain, qui dirait « je suis bon », mais qui s'enfermerait chez lui et ne donnerait jamais rien à personne. Alors il aurait beau répéter toute la journée « je suis bon, je suis un homme bon et généreux », et même peut-être le penser très sérieusement. Mais s'il ne donne pas concrètement, même s'il a les meilleurs sentiments du monde, il ne peut pas être qualifié de bon. Être bon, c'est aider l'autre. De la même manière, ce qu'on a dit du rôle de l'homme, donner, apporter, aspirer, apporter de l'extérieur, donner de quoi faire dans cette construction du sanctuaire, bien, s'il n'a pas à qui donner, malgré tous les efforts du monde, il n'aura pas accompli son travail. Les sages vont très loin sur ce thème, en nous disant que celui qui a une femme mérite le nom de Ish. Celui qui a Isha mérite le nom de Ish. Celui qui a une femme, une épouse, celui-là mérite le nom d'homme. Pourquoi ? Parce que là, réellement, le projet existe. Il y a quelque chose entre les deux. Il y a quelque chose de commun, il y a une construction possible. Donc la femme a un rôle essentiel. Pour cette raison, l'homme est invité à manifester le plus grand respect envers sa femme. Alors ce n'est pas juste un respect, comme on le dit dans nos sociétés occidentales, il faut respecter, etc., etc. Ce n'est pas seulement cela. Il y a derrière cette idée la notion que sans la femme, il n'y a rien qui puisse se construire. D'où la nécessité de l'unité. Alors, finalement, je vois que ça fait 35 minutes que je parle et que vous me supportez encore. Finalement, qu'avons-nous dit ? Nous avons dit une idée essentielle. Le mariage se comprend, pour être réussi, comme une construction commune, avec la conscience des différences qui, par nature, séparent chacun des intervenants, chacun des partenaires. Mais à condition que ces différences sont enrichissantes et légitimes, à condition qu'elles soient orientées dans un but unique, celui de réaliser le sanctuaire de Dieu sur terre, dans la maison, dans le foyer. Cela est possible si chacun assume totalement sa différence. Autrement dit, si l'homme est un homme et la femme est une femme, avec toute la noblesse qu'on peut mettre dans chacun de ces termes. À ce moment-là, quand l'homme assume sa condition d'homme complètement, que la femme assume sa condition de femme complètement également. Ce qui ne veut pas dire, mesdames, qu'elle se contente obligatoirement de faire la cuisine et le ménage. On pourrait revenir s'il y a des questions sur le sujet. En tout cas, que la femme assume complètement sa condition spirituelle de femme, alors à ce moment-là, il crée un troisième être, qui est en même temps, qui est l'apport spirituel de chacun. Et cette union qui fait d'eux une seule entité permet de faire apparaître l'infini dans ce monde sous la forme de l'enfant et de la résidence de Dieu dans le monde matériel. Alors aujourd'hui, on l'a dit, la femme est dans la position de recevoir. Mais vous savez que quand ma chère va venir, et je conclurai là-dessus, avant de vous laisser la parole, vous savez que quand ma chère va venir, il nous est enseigné que le rapport va être inversé. Nous avons une figure de la même chose en nous-mêmes. Nous sommes constitués d'une neshama, d'une âme et d'un corps. Aujourd'hui, de manière évidente, lorsque c'est la neshama, c'est l'âme qui nourrit le corps. La meilleure preuve est que si Chas v'Shalom, la neshama décide de quitter le corps, ou plutôt si l'heure est venue où l'âme quitte le corps ne peut survivre tout seul. Dans le rapport qu'on vient de dire, on pourrait comparer l'âme au mari, l'inspirateur qui donne, etc., et le corps à la femme. Non pas au sens dégradé, mais parce que s'il n'y a pas le corps, l'âme ne peut pas agir dans ce monde. Comme s'il n'y a pas la femme, l'homme ne peut pas agir dans ce monde. Eh bien, donc aujourd'hui, le corps ne peut survivre sans l'âme. De la même façon qu'aujourd'hui, il y a besoin de la femme, si on a dit toute sa grandeur, dans les faits positifs, dans la construction concrète, a également pour cela besoin de l'apport de son mari. C'est vraiment une union dont on a parlé, une unité réelle qui est construite. Mais lorsque le Mashiach viendra, nous dit-on, le rapport sera inversé. À ce moment-là, ce n'est pas l'âme qui continuera de nourrir le corps, mais, nous disent les sages, c'est le corps qui nourrira l'âme. On verra apparaître la grandeur et la supériorité du corps. Qui est la réalité profonde, la nature profonde de cet élément de l'homme. De la même manière, lorsque le Mashiach viendra, nous dit-on, à ce moment-là, la femme fera apparaître sa grandeur et surpassera encore celle de l'homme, autrement dit cet aspect qui la conduisait à avoir besoin de recevoir quelque chose que lui donne son mari, bien cet aspect n'existera plus mais sera inversé. C'est-à-dire c'est elle qui apportera à son mari. Et cela, nous en avons déjà un avant-goût aujourd'hui. Connaissez la fameuse phrase de nos sages qui s'interroge sur ce qu'est la femme vertueuse et qui finalement en un mot ont résumé ce que je viens de dire pendant 40 minutes. Les sages dans le Talmud nous disent Eizu ishakshera kol aosa ratson bala. Quelle est la femme vertueuse? Ils entreprennent de la définir et ils le disent en une phrase, c'est celle qui fait la volonté de son mari, celle qui obéit. Première traduction. On va donner immédiatement la deuxième. Reprenons les mots. Zeishak Shera, quelle est la femme vertueuse? Kola Osa. Le mot Osé, la Asot, en hébreu, est un mot très fort, qu'on a traduit tout à fait normalement par faire, mais qu'on pourrait traduire encore plus exactement par « fabriquer ». Eh bien, quelle est la femme vertueuse? Celle qui fabrique la volonté de son mari. Vous avez remarqué qu'on a dit deux choses qui sont totalement opposées, là encore. Est-ce qu'elle obéit? Ou est-ce qu'elle suscite? Ou est-ce qu'elle inspire? La vraie unité, finalement, c'est ça. Et le vrai défi du mariage, c'est peut-être cela aussi, c'est de réaliser les deux en même temps. La femme fait la volonté de son mari, mais la volonté qu'elle fait est la volonté essentielle de son mari, dont elle perçoit peut-être mieux la nécessité que lui-même. Et donc cette volonté qu'elle va faire, c'est celle qu'elle doit fabriquer si c'est nécessaire. Et pour cette raison, lorsque l'on considère un couple juif, eh bien, c'est une véritable entité unique que nous avons à faire. Entité qui représente le mariage de Dieu et du peuple juif. Eh bien, comme je vais quand même vous laisser la parole, ce que nous pouvons souhaiter en conclusion, c'est précisément que de cette unité-là, de cette unité essentielle de chaque couple juif, découle l'unité profonde entre Dieu et le peuple juif, et que, comme nos sages nous le disent, eh bien, puisque nous sommes dans une situation de fiançailles avec Dieu, puisque nous n'avons pas réalisé encore cette unité parfaite qui se révélerait au monde entier. Que Dieu fasse que de l'unité du mariage juif, de la réussite, de la perfection du mariage juif, arrive la réussite de la perfection du mariage du peuple juif et de Dieu. Cela s'appelle la venue de Mashiach. À ce moment-là, nous aurons vraiment une demeure commune qui sera très bientôt Bezrat Hashem, le troisième Beth Amikdash, le troisième temple de Jérusalem.
Et avant de passer au débat, j'aimerais bien, encore une fois, au nom du CCIM et de son président, M. Amselem, remercier Rav Chaim Nissenbaum de nous avoir éclairé sur le défi du mariage. Je rappelle que Rav Chaim Nissenbaum est le vice-président du Consistoire de Paris, écrivain, haut fonctionnaire au ministère, porte-parole du Beit Lubavitch également. Il a un emploi vraiment très très chargé. Baruch Hashem, ça fait je ne sais pas combien de mois qu'on lui court après, mais grâce à Dieu, nous avons pu l'avoir en personne ici ce soir avec nous. Alors, profitez de cette occasion, je passe le micro.
Donc, la question était, on a dit que la femme doit faire la volonté de son mari et également doit fabriquer la volonté de son mari. Si elle la fabrique, que doit-elle fabriquer d'abord? Est-ce qu'elle doit fabriquer ce qu'elle estime bien ou ce que son mari lui demande de fabriquer? Non, les commentateurs vont très loin sur le sujet. Ils nous disent que ce qu'elle fabrique, c'est ce qui est nécessaire. Ça renvoie évidemment à un autre débat. Comment juge-t-on ce qui est bon ou ce qui n'est pas? Autrement, je vais le dire en d'autres termes, peut-être un peu plus cru. Comment est-ce qu'on est sûr que la femme ne se trompe pas? Elle a décidé de fabriquer la volonté de son mari, mais c'était peut-être pas la bonne. Alors tout ce qu'on a dit, et en réalité je vous remercie d'avoir posé une question de ce type, parce que tout ce qu'on a dit peut sembler très théorique. On a dit finalement, on a décrit tout, on a décrit le mariage, et on aurait pu continuer, mais j'ai choisi de ne pas vous retenir toute la soirée à m'écouter. Mais on a choisi de traiter le mariage comme un événement spirituel. Et on l'a décrit sous cet angle-là. Et c'est ce qu'il est fondamentalement, dans sa préparation, dans sa réalisation et dans la vie du couple qui s'ensuit. Mais cependant, il y a des réalités matérielles. Comment est-ce qu'on fait tous les jours à la maison? On va le poser comme ça. Autrement dit, c'est bien de dire à son mari « Tu es Dieu et je suis le peuple juif ». Ça lui fera certainement plaisir. Mais en dehors de cela, comment est-ce qu'on traite les problèmes au quotidien? Eh bien, exactement comme vous venez de le dire. Oui, effectivement, la femme doit faire et fabriquer. Elle doit faire la volonté légitime de son mari et elle doit fabriquer celle qui lui manque. Comment sait-on que la volonté du mari est légitime et comment détermine-t-on celle qui lui manque? Eh bien, parce qu'on sait où on va. Tout dépend de la fixation du chemin. On l'a dit. Le couple juif, je vais me lever parce que je vois que beaucoup tendent le cou, ça sera plus simple. On l'a dit, le couple juif a un sens. Il a une volonté. Quand il construit quelque chose, c'est dans un but bien déterminé. Vous savez qu'il y a une coutume répandue dans tout le peuple juif qui veut que le Khatan, le Shabbat précédent ou le Shabbat suivant le mariage, monte à la Torah. Pourquoi? Bon, d'accord, comme on dit dans les communautés, dans les synagogues en général, on veut faire un kavod au Khatan. On veut manifester le respect qu'on lui doit pour sa condition de Khatan. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ce qu'on dit au Khatan quand il monte à la Torah, que ce soit selon les coutumes, avant son mariage ou juste après, c'est « Sache où tu vas. Tu es en train de regarder le plan de ta vie. » Et tu ne peux pas vivre si tu ne connais pas le plan, comme personne ne peut se diriger dans quelque endroit que ce soit s'il n'a pas un plan qui lui permette de connaître le chemin. C'est-à-dire que la femme, effectivement, doit fabriquer les volontés qui manquent. Et nous avons là-dessus une phrase fameuse du Talmud qui nous dit que les femmes ont une part dans l'étude de la Torah, en dehors de leur étude de la Torah personnelle. Là aussi, pas de mauvaise interprétation, une femme doit étudier la Torah, disons-le clairement. Mais il n'y a pas la mitzvah au même degré que l'homme. Alors le Talmud interroge. Comment la femme a-t-elle cette récompense qui s'attache à un commandement impératif imposé? La femme ne l'a pas de la même manière. Elle n'a pas l'obligation constante de l'étude. Et le Talmud de répondre, eh bien c'est très simple, c'est parce qu'elle pousse son mari à aller au Beit HaMidrash. À ce moment-là, elle a le même, à tel point d'ailleurs que chez nos rébim, on a même l'habitude, quand une fille naît, de souhaiter les Torah, les Chupa ou le Maasim Tovim, comme pour un garçon. C'est-à-dire qu'on lui souhaite une bénédiction pour la Torah, pour le mariage et les bonnes actions. Et il y a une vraie interrogation, parce que pourquoi est-ce qu'on lui souhaite pour la Torah? C'est une fille, elle n'a pas l'obligation du point de vue de la halakha, du point de vue de la loi juive, elle n'a pas une obligation impérative comme un homme d'étudier la Torah constamment. Donc pourquoi est-ce qu'on souhaite qu'elle grandisse pour la Torah? On devrait se contenter de lui souhaiter qu'elle grandisse pour le mariage, ça c'est vrai, et pour les bonnes actions. Une femme fait des bonnes actions. On dit non, parce qu'alors elle ne remplirait pas son rôle. Elle a un mérite dans l'étude de la Torah de son mari parce qu'elle crée chez lui la volonté d'aller étudier et elle est capable aussi de l'attendre même quand il tarde. Cela signifie ici qu'il y a un vrai rôle. Mais comment on le détermine? Bien, en fonction du but à atteindre et pas autrement. Bon, je répète la question. La question était la suivante. On a dit que le rôle du mari, c'est d'apporter, enfin on a cité le Talmud en fait, apporter le grain que la femme va moudre et dont elle va faire de la farine et du pain. Et donc un rôle partagé, comme on l'a dit. Mais si on dit ça en termes plus contemporains, on dira que le rôle du mari, c'est de sortir, aller chercher la parnasse à l'extérieur, et la femme va l'utiliser. Bon, tout ça est très bien. Mais nous savons qu'il y a des milieux, certes très minoritaires, mais qui existent malgré tout, qui est que la femme travaille pendant que le mari est en train d'étudier la Torah toute la journée. Bon, c'est vrai. Alors vous avez bien raison de dire d'abord que c'est très minoritaire. Mais cela précisé, même si ça existe sur le principe, il faut quand même s'interroger. Alors, ce que je voudrais dire simplement, que dans cette phrase du Talmud, il ne fallait pas voir une interprétation aussi concrète cette fois-ci et pratique. Pourquoi? Bien parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire aussi, inversement, que la femme ne doit jamais sortir. Son rôle, c'est la cuisine, le ménage, les enfants et rien d'autre. Cette idée-là aussi serait fausse. Autrement dit, ce que le Talmud désigne, ce sont les potentialité de chacun. L'homme, lui, a cette capacité spirituelle de pouvoir sortir à la conquête. La conquête de quoi? D'Arco Lirvoche. La conquête de quoi, en fait? Il n'y a plus rien à conquérir aujourd'hui. Ce qu'il y a à conquérir, c'est tout simplement le monde. Pourquoi le monde? Parce que il s'agit d'aller spiritualiser le monde alentour. Pourquoi travaille-t-on? On doit poser la question autrement. On va élargir un peu le problème. Pourquoi va-t-on travailler? Allons plus loin. Pourquoi Dieu a-t-il créé les choses, l'univers, de telle façon qu'on soit obligé de travailler? Après tout, Dieu a pu nourrir nos ancêtres pendant 40 ans dans le désert en faisant tomber la manne tous les jours. Il aurait pu continuer. Chacun sur notre paillasson, tous les matins, nous aurions trouvé de la manne et nous nous serions nourris toute la journée sans problème. Comment se fait-il que nous soyons obligés de travailler? Parce que le travail n'a pas uniquement pour fonction de nous fournir de quoi vivre, le travail a pour fonction de donner un but à ce monde. Quand un juif va dans le monde, utilise le monde pour le spiritualiser, comme on a dit. Utilise le monde pour en faire quelque chose qui va être utile au service de Dieu. Il le fait dans sa vie quotidienne. Enfin, je vais le dire en d'autres termes. On n'est pas juif à certains moments privilégiés de la journée, du type l'étude, la prière ou quelque chose comme ça. On est juif 24 heures par jour. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'une manière juive de manger, en dehors du fait de manger kasher, qui est une mitzvah, l'acte de manger. Il y a une manière juive de marcher dans la rue, voire de dormir. Il y a même une manière juive d'aller à son travail. Et il y a une manière juive de travailler. Lorsqu'un juif travaille de cette façon-là, c'est-à-dire en application bien sûr des règles du Shulchan Aruch, mais pas seulement en application des règles de la loi juive, mais aussi en ayant toujours en tête que le but du travail n'est pas l'obtention de tel ou tel gadget matériel que les publicistes essayent de nous imposer, mais que le but de son travail, c'est d'obtenir les moyens qui vont lui permettre d'élever une famille juive, de donner la tzedaka, etc., etc. Autre, ce qui s'appelle travailler de manière juive. Alors, à ce moment-là, il a raffiné le monde matériel. Ce qu'il ramène à la maison, ce n'est pas seulement son virement mensuel. Ce qu'il ramène à la maison, c'est les résultats de l'effort spirituel qu'il a déployé. Il appartient à la femme de prendre cet effort spirituel et de le concrétiser dans la vie quotidienne. C'est ce qu'on voulait dire, un défricheur ou un découvreur et une mainteneuse. Maintenant, tout cela peut se passer de différentes manières. Par exemple, effectivement, la femme pourra aller travailler. Je vais vous faire une confidence, l'homme peut même faire la vaisselle. Je répète la question. On a dit que, on sait que l'homme a l'obligation impérative d'étudier, que la femme n'a pas cette obligation, qu'elle doit le pousser, même si elle doit étudier. Si l'homme ne fait pas ce qu'il devait, il n'étudie pas, quelle est la conséquence sur éventuelle, sur la famille, les enfants, etc. Est-ce qu'il y a un manque général? D'abord, la première chose, c'est que sur tous ces sujets et sur d'autres encore, la première attitude qu'il faut avoir, c'est une attitude positive. Autrement dit, ne recherchons pas les manques, recherchons les avantages. Qu'est-ce que ça veut dire en l'occurrence? L'homme n'étudie pas, il a tort. Le premier manque qu'on va observer, c'est chez lui. L'homme doit être l'inspirateur de la famille. Certes, il va avoir un peu de mal à être cet inspirateur s'il n'est pas porteur lui-même d'une inspiration. Mais pour tout cela, la femme peut agir. La femme peut expliquer. Elle peut étudier elle-même. Imaginons des schémas originaux. La femme peut proposer à son mari d'étudier ensemble, y compris en français. Quand on dit l'étude, souvent on pense immédiatement à des choses compliquées. Vous savez qu'on vit une génération qui est tellement basse qu'elle présente des avantages prodigieux. Dans les générations passées, il y a encore une génération seulement, celui qui ne connaissait pas au moins l'hébreu voyait, enfin une ou deux générations peut-être, celui qui ne connaissait pas au moins l'hébreu voyait toutes les portes de l'étude se fermer devant lui. Il ne pouvait rien faire, c'était un ignorant. Quand je dis connaître l'hébreu, c'est pas seulement le lire, bien entendu. Aujourd'hui, notre génération est si basse, si obscure, qu'il a fallu décidément beaucoup de lumière, une lumière dont nos ancêtres n'ont jamais profité, n'ont jamais joui. Alors que s'est-il passé? Eh bien, nous avons vu apparaître les traductions en tous les sens. Aujourd'hui, en français, on a une bibliothèque absolument gigantesque. Ce qui fait que même celui qui ne va pas en cours, ce qui est une erreur, celui qui ne va pas étudier, a encore la ressource chez lui, à n'importe quelle heure, de prendre un livre, même une traduction française, et de se mettre à l'étudier. Cela s'appelle de l'étude. Ce n'est pas négligeable. Quand on dit étudier, on ne dit pas il faut fixer une demi-journée tous les jours, ni même une heure par jour. Quand on dit étudier, on peut commencer par 5 minutes. Ces 5 minutes-là, tout le monde peut les donner. Il faut savoir que lorsque on étudie, les parents étudient à la maison, c'est nos sages nous le disent, cela change l'atmosphère de la maison. Alors, ce n'est pas qu'il y a un manque, je n'aime pas beaucoup parler en termes de manque. Vous savez, regardons plutôt l'autre côté. Lorsque l'on étudie, cela change l'atmosphère de la maison et cela apporte une sainteté, une pureté dans ce que les enfants vivent qui est littéralement irremplaçable. Et puis, écoutez, on a parlé du couple juif. Le but du couple, c'est d'avoir des enfants, entre autres choses. Et même c'est le but essentiel et fondamental. Comme on l'a dit, l'apparition de l'infini dans notre monde. Tout petit peu de bon sens, mais pas de la pédagogie, c'est juste du bon sens. Les enfants qu'on aura, on désire tous les mettre à l'école juive, j'imagine. On désire même peut-être tout simplement, même sans aller jusque-là, on désire tous qu'ils continuent ce que nous avons nous-mêmes. Nous voulons que nos enfants juifs soient des juifs conscients. C'est tout. C'est le rôle et le but de tout parent juif que de le vouloir. Si on ne le veut pas, c'est un autre débat. Dans ce cas, si quelqu'un ne le veut pas, je lui demanderai de me poser la question. Donc c'est le but et le rôle de chacun ici. Maintenant, comment fait-on? Quand un enfant va entendre, ou quand on va lui dire qu'il faut être juif, un juif conscient et enthousiaste, c'est-à-dire qu'il faut qu'il connaisse son patrimoine, il faut qu'il connaisse sa culture, il faut qu'il connaisse ce qui fait sa vie et son âme. Mais l'enfant, de manière générale, l'enfant, on ne lui ment pas. On ne le trompe pas. L'enfant est sensible à la sincérité de ce qu'il entend. Et la première question qui lui vient aux lèvres, même, et surtout s'il ne la pose pas d'ailleurs, mais elle l'aura en lui, c'est « Mais vous, mes parents, quel exemple me donnez-vous? Pourquoi est-ce que moi, enfant, vous me demandez d'étudier des choses que vous ne vous préoccupez pas de connaître? » C'est pour cela qu'il est essentiel que les parents étudient à Torah. Et vous avez remarqué que j'ai transformé votre question. Vous m'avez parlé du père, je vous parle des parents. Encore une fois, il y a ici une unité profonde. Et si nous vivons dans un temps où les choses semblent plus difficiles, alors la mère aussi a le pouvoir d'étudier. Elle n'a, c'est vrai, elle n'a pas l'obligation impérative qu'à son mari. Et donc, elle n'aura pas le même type de récompense dans le monde futur. Mais le sujet n'est pas la récompense que nous allons obtenir dans le monde futur. Nous la souhaitons tous très grande. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que donnons-nous à nos enfants? Que transmettons-nous? Chacun peut transmettre. Et je suis persuadé que lorsqu'une femme montre l'exemple de manière intelligente, bien, nous sommes arrivés dans un temps, peut-être est-ce un avant-goût de la vie de Mashiach, où la femme peut montrer un exemple à son mari et lui dire « Étudions. Étudions peut-être ensemble, encore une fois. » Par exemple, on dit, la lecture de la Torah, pour prendre un exemple parmi d'autres, pour prendre des centaines, mais la lecture de la Torah que l'on fait à la synagogue, quelquefois je me dis « C'est vraiment très ennuyeux. » Vous êtes le Shabbat, assis à la synagogue. Et pendant un quart d'heure, et si le rabbin est en forme pendant une demi-heure, vous allez entendre des mots que peut-être vous ne comprenez pas, des mots qui n'ont pas de sens pour vous, qui ressemblent à une série de grognements, chantés sur un air monotone qui n'est même pas agréable à l'oreille. C'est ce qui se passe pour, peut-être pas pour nous, nous sommes ici des juifs privilégiés. Mais très honnêtement, c'est ce qui se passe dans 80% de la communauté. Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être tellement différent. Vous pouvez arriver à la synagogue en sachant de quoi la paracha parle, même si vous n'avez pas traduit mot à mot, on n'en demande pas tant, vous avez pu lire quelques commentaires en français qui existent, tout à portée de la main. On m'a même dit qu'il y a la Sidra de la semaine qui est diffusée. Vous pouvez lire en commentaire. Et ainsi, quand vous entendez cette Torah, tout à coup, ça prend un sens. Ça devient un texte riche. C'est quelque chose de beau à transmettre. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Alors, bien sûr, vous pourriez dire, oui, mais ce n'est pas mon rôle. Moi, en tant que femme, ce n'est pas mon rôle. Vous avez raison. Fondamentalement, ça ne devrait pas être le rôle de la femme. Nous vivons dans un temps où ça devient parfois aussi le rôle de la femme. Et celle-ci aussi a une part dans l'étude. Elle a une part dans l'étude et elle peut l'apprendre. Et elle peut inspirer à son tour parce que si elle ne le fait pas, qui le fera? Et je suis persuadé que quoi qu'on fasse, en rajoutant de la pureté, de la sainteté dans l'atmosphère de la maison, par le simple prononcé des mots de Torah, de mots de judaïsme, eh bien, ça change quelque chose, même dans l'esprit du mari qui respire cette atmosphère-là.
Bah, écoutez, je crois qu'on peut applaudir très fort. Très bien.